Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir. Mais avant de démarrer vraiment notre émission du jour, je commence par signaler que nous sommes le lundi 16 juin 2025. Si je précise ça, c'est pour une éventuelle rediffusion. Parce que je m'apprête à vous lire un communiqué de la Fédération anarchiste qui, lui, est forcément daté. Stop à la guerre entre l'Iran et Israël. Une nouvelle guerre a commencé au Proche-Orient entre l'Iran et Israël. Le premier est un État théocratique extrêmement autoritaire qui n'hésite pas à réprimer dans le sang la moindre protestation sociale et politique. Il a toujours eu des visées panislamiques régionales, finançant et armant, entre autres, des groupes comme les Houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban. Le second est un État de plus en plus raciste, expansionniste et génocidaire qui n'a pas hésité à massacrer plus de 55 000 Palestiniens, dont 15 000 enfants, ces derniers mois, en prétextant combattre une organisation islamiste et ses attaques atroces du 7 octobre 2023, le Hamas. Ces deux États sont maintenant entrés en conflit direct par des attaques aériennes. En moins de 48 heures de guerre, outre les destructions propres à toutes les guerres, de nombreuses pertes humaines civiles sont constatées de part et d'autre. Comme à Gaza, les enfants ne sont pas épargnés. Plusieurs d'entre eux ont déjà été tués en Iran, notamment un bébé de 2 mois, Ryan Gashiman, suite à un bombardement israélien dans un quartier de Téhéran. Les raisons invoquées par les deux États pour se faire la guerre sont mensongères. L'État iranien ment quand il se dit défenseur des droits des Palestiniens. L'État israélien ment quand il se dit dans une crise existentielle afin de détruire le programme nucléaire iranien. Tous deux veulent se détruire pour des objectifs de domination régionale, d'intérêts géopolitiques et économiques. Leur guerre est encore plus dangereuse que n'importe quelle autre guerre classique, car les dirigeants de ces deux États se basent sur des textes religieux pour justifier leur but. Le 83e congrès de la Fédération anarchiste, réuni les 7, 8 et 9 juin 2025 à Chirol, en Ardèche, a adopté une motion dans laquelle on peut lire « Tout concourt à terroriser les populations pour les soumettre et les dresser, utilisant de plus les religions souvent et le patriarcat toujours, au service du capitalisme et des puissants ». Bien que cette motion soit antérieure au déclenchement de cette nouvelle guerre, sa justesse est tristement vérifiée. La Fédération anarchiste est contre toutes les guerres. Celle-ci doit cesser immédiatement. La Fédération anarchiste invite toutes les forces en faveur de la paix et contre toutes les guerres à former des résistances de base, surtout en Iran et en Israël, contre les méthodes inhumaines des États mortifères iraniens et israéliens avant qu'ils n'atteignent plus ou moins leur objectif de créer une terre brûlée ici ou là. Soyons solidaires contre la guerre et le militarisme, soyons solidaires internationalement pour la vie. Et c'est signé des relations internationales de la Fédération anarchiste d'hier, 15 juin 2025.
Serge, donc, au micro. Nicolas n'a pas pu venir aujourd'hui. Juste un mot rapide. On essaiera de vous tenir au courant de, par rapport à tout ce qui se passe là-bas, d'autant plus que le compagnon qui a proposé ce texte et qui est responsable des relations internationales est d'origine iranienne. Et on a déjà fait d'ailleurs pas mal d'émissions avec lui sur ce qui se passe en Iran, à la fois historique et actuel. Donc voilà, pour un moment, malheureusement, on aura encore l'occasion de d'en parler avec des sources quand même assez sûres. Voilà, donc aujourd'hui, on va être dans les rubriques. Alors vous savez qu'on a des rubriques, tranche de vie, tranche avec un S bien sûr. Oh, on peut même mettre un S à vie si on veut. Moi j'en mets pas, mais bon. Et donc on va avoir parler de tranche de vie d'Américo Núñez. Ceux qui nous suivent depuis longtemps peut-être savent qu'on l'avait déjà reçu par rapport à un livre qu'il avait publié sur la révolution mexicaine et particulièrement sur Ricardo Flores Magón. Voilà. Donc malheureusement Américo nous a quittés en janvier 2024, je crois, de mémoire, je ne me rappelle plus le jour exact. En tout cas, je me rappelle, c'était un début de l'année 2024. Et un livre vient de sortir, et donc celui qui a beaucoup travaillé, Freddy Gomez, pour réaliser ce livre, il nous expliquera justement dans quel contexte on va pouvoir accompagner Américo depuis sa naissance au Mozambique. Enfin bon, on va en parler. Et en fait, la matière première est à la fois très intéressante, mais a amené beaucoup de travail pour la mise en forme pour faire ce livre pour Freddy. Donc, de conversations, on expliquera avec qui il les a vus, qui se sont étalés pendant plusieurs années, avec des choses qui pouvaient se recouper, etc. Et donc, ce livre, moi, je le recommande fortement, à la fois, bien sûr, pour suivre cette personnalité d'Américo. Tous ceux qui l'ont connu, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont à l'antenne, savent que c'est quelqu'un... Enfin, à la fois très chaleureux et en même temps qui amenait beaucoup des échanges, qui écoutait les gens, etc. Enfin, c'est pas si courant que ça en a l'air. Et en plus, tous les événements qu'il a pu voir, qu'il a pu analyser, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense qu'avant de rentrer un petit peu dans les échanges avec Freddy, je pense que c'était important d'écouter la voix d'Américo. Et donc, il était effectivement venu nous présenter son livre qui s'appelle Flores Magón, Révolution sociale au Mexique.
Je suis né au Mozambique. Je suis parti pour des raisons d'anticolonialisme et aussi d'antifascisme, mais non pas à la manière des tiers-mondistes, puisque je n'ai jamais été tiers-mondiste, même si je reconnais que à un certain moment et à certain niveau, ce fut quelque chose d'important. Mais bon, ce n'a jamais été mon objectif. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est le problème des révolutions sociales, des mouvements utopiques, des mouvements sociaux, notamment en Europe. En Europe, en France, au 19e, mais évidemment, je me suis beaucoup intéressé aussi à ces mouvements anarchistes, communistes, syndicalistes révolutionnaires ou autres, en Espagne, au Portugal, en France. Donc, ce fut cela qui m'a attiré vers le Mexique. Évidemment, ce fut en quelque sorte une rencontre amoureuse d'amour entre moi et le Mexique qui reste pour moi extrêmement important, et c'est ça qui m'a amené à travailler. Mais attention, à l'époque, Mexique, c'était Pancho Villa, le mythe Pancho Villa, les films sous Pancho Villa et Zapata, surtout après le film d'Elia Kazan, Viva Zapata. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. D'abord, ce qui m'a intéressé, ce furent les mouvements, disons, anarchistes proprement dit, anarcho-communistes, qui ont participé à la révolution mexicaine. Et d'un autre côté, parce que mon livre résulte aussi pas d'un, de quelque chose, j'étais fâché. Puisqu'en général, on arrête le mouvement par des anarcho-communistes, notamment, je pense à Ricardo Flores Magón et les magonistes, on les arrête à la prise du pouvoir par Madero. Après, ce mouvement disparaît. Donc, et pour moi, il disparaît pas du tout. Donc, j'ai mené une enquête. J'ai mené une enquête. Je suis allé chercher dans les archives, dans des documents premièrement. Je travaillais un certain nombre d'années là-dessus pour arriver à la conclusion que il y avait une occultation. Cette occultation volontaire, ce qui ne veut pas dire que le nom de Flores Magón ne circulait pas au Mexique, mais sous le rôle, disons, révolutionnaire pendant la Révolution, est occulté. On fait un précurseur. Alors ça, ça m'a mis, en quelque sorte, dans une étape bon, d'exaltation, pour essayer de trouver quel avait été exactement le rôle de ce mouvement. Voilà ce qui m'a amené à écrire ce livre et surtout à faire des recherches.
Vous venez donc d'entendre Américo Nunes, dont on va parler aujourd'hui avec Freddy Gomez, mais peut-être avant de rentrer, parler évidemment de sa jeunesse au Mozambique et tout ça, mais que tu nous parles un petit peu de la matière qui a, et de l'envie de faire ce livre, comment ça s'est passé. Donc, remonter un petit peu ta rencontre en fait avec Américo, parce que ça part quand même de là, ton intérêt à la fois pour le personnage et aussi pour ce travail presque surhumain, d'après ce que tu m'as dit. Enfin, en tout cas, tu as vraiment bossé apparemment, et je comprends, je vois. Donc, mais pour expliquer pour les auditeurs, tu nous parles un petit peu à la fois de ta rencontre et après comment tu as été amené à utiliser ces conversations, ces échanges.
D'abord dire que c'est très émouvant pour moi d'entendre l'extrait qu'on vient d'entendre, d'entendre la voix d'Américo, oui. Cette espèce de passion qu'il y a dans sa voix. Et de dire que c'est précisément à l'occasion de la publication de son bouquin sur Magón qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Donc c'était en 2010, je crois, 2009-2010, à une fête du livre rue des Vignoles. Ouais. Et on me l'a présenté et j'avais publié une longue, très longue recension, très très laudative et favorable dans à Contretemps, qui à l'époque était une revue papier. Et il m'est tombé dans les bras littéralement en disant « Tu as publié le plus beau texte que j'ai jamais lu sur ce bouquin et tout ça. » Et on a eu une espèce de coup de foudre pour quelqu'un qu'on connaissait, parce que j'avais suivi, j'avais lu tous les bouquins. Bon, il n'a pas publié énormément, mais bon, je suivais ce qu'il publiait dans les revues. Et là, on dit toi, et en fait, le type que tu as en face de toi correspond exactement à l'idée que tu t'étais fait de ce personnage. Et il me dit, c'est quand même con qu'on ne se soit pas connu avant. Ouais. Et je lui dis, mais il n'est jamais trop tard, ou quelque chose comme ça. Et il me dit, on va rattraper le temps perdu. Et effectivement, on a rattrapé le temps perdu, puisqu'on a fixé un espèce de calendrier assez régulier. Mmh. Où on se voyait dans... Lui, il avait ses quelques bistrots préférés. Il y avait un bistrot qui s'appelait le Latin, ou Quartier Latin. Mmh. Après, il y en avait un qui s'appelait la Barrique, à côté de chez lui, du côté du canal Saint-Martin. Mmh. Et donc, on se voyait, c'était une espèce de très longue conversation sur tout genre de problèmes. Tout ça. Et il m'avait dit, je me souviens, lors de ma première rencontre, ce qui est marrant, parce que ça veut dire qu'il avait lu des textes que j'avais publiés. Tout ça. Il dit, de toute façon, nous sommes tous les deux des hétérodoxes. Et il y avait quelque chose qui tenait de ça, quoi. Mon rapport à l'anarchisme, qui est un rapport très très fort, mais où j'étais souvent dans des positions critiques. Lui, son rapport à ce que la police appelle l'ultra-gauche, mais qui en fait est une appellation flicarde, en fait... ce que lui appelait la gauche communiste, conseilliste, et il était aussi sur des positions toujours un peu critiques par rapport à un truc, si critique que c'est quand même l'un des premiers avec Robert Paris et quelques autres, qui ont tout de suite percuté la dérive négationniste de la vieille taupe, et qui se sont barrés immédiatement sur un texte public, et que c'est quand même à leur honneur, parce que s'il y a quelque chose qui a sali la gauche communiste, c'est ça, quoi. Donc un personnage tout à fait... je sais pas, il y a un truc qui est de l'ordre de l'affinité profonde entre les êtres, quoi, et on est devenus amis. Bon, en plus, on avait des goûts poétiques qui étaient... Par exemple, un jour, je sais pas, j'étais... Lors d'une des premières rencontres avec lui dans un de ses bistrots, là, il me demande un truc, je vide mon sac, et en fait, en vidant mon sac, je sors un bouquin de René Char que j'avais dans mon sac. Il me dit, mais tu lis René Char? Et je lui dis, ben oui, j'aime beaucoup René Char.
Bah, moi aussi.
Et en fait, il me dit, mais c'est un très bon point pour toi. Ouais, c'était un personnage très, très curieux. Donc... pour parler un peu de la genèse de ce livre, il avait entrepris depuis plusieurs années avec un étudiant qui s'appelle Yann Martin, qui est prof maintenant à Marseille, et qui était un étudiant désargenté. Et donc, il avait entrepris de faire une espèce d'entretien avec lui, mais sur la longue durée. Alors, c'est une très longue durée, parce que ça a duré quand même... entre 8 et un peu plus, entre 8 et 10 ans, parce que Yann, en fait, venait en fait, à Paris quand il pouvait se payer un billet de train et tout ça, et donc il y avait le manuscrit original est énorme, quoi.
Ah oui.
Et parce qu'il y avait, évidemment, tout était à reprendre, parce qu'il y avait énormément, parce que tu vois, le Yann, par exemple, entre deux rencontres, il se passait 2 ans, quoi, tu vois. Donc, d'abord, il y avait tout un boulot de transcription et tout ça. Il y avait énormément de répétitions sur d'une partie de l'entretien à la suivante et tout ça, parfois même des contradictions, des trucs comme ça. Donc, il y avait tout un travail de fond, de réécriture à faire. Et donc, c'est le projet que j'avais avec Américo, faire ça ensemble. Et il se trouve que, comme tu l'as dit, il est mort en janvier 2024. Et moi, j'avais bossé à ce moment-là sur le premier chapitre du bouquin, qui est sur son enfance, sa jeunesse, ses années de formation. Bon, là, il dit qu'il n'a jamais été tiers-mondiste, mais il était quand même très, très proche des positions tiers-mondistes à l'époque, quand il était au Mozambique. Donc, il connaissait tous les groupes du mouvement de libération, libération nationale. Et donc, j'avais fini ce premier chapitre, et donc il m'appelle un matin de janvier 2024, c'était un samedi, en fin de matinée, et je savais qu'il avait subi une opération qu'on disait bénigne dans un hosto, et en fait, je le sens très affaibli, quoi, très...
Ah oui, à la voix, t'as dit ça.
La voix, je le sens très affaibli, mais en même temps avec des espèces d'impulsions où il retrouvait un peu son rythme. Donc il me demandait alors comment t'as fait pour régler cette question dans le premier chapitre. Il y avait un truc en même temps très présent. Et la conversation se termine, et donc je lui dis bon, mais dès que tu te sens mieux, on se voit et tout ça. Et il me dit, mais tu sais, je vais pas très bien. Mais de toute façon, je suis rassuré parce que je sais que le travail est entre tes mains et que tu feras le nécessaire pour que ça sorte et bien. Et évidemment, c'est un truc, quand t'entends ça, quoi, tu vas au téléphone, en fait, on te donne une mission, quoi. Et c'est une mission d'ami, donc on ne trahit pas une amitié, quoi. Et il est mort l'après-midi. Et voilà, donc c'est un travail considérable, en fait, de mise en forme, de nettoyage, de des
répétitions. Et les documents que tu avais, enfin, autrement dit, les conversations, est-ce qu'elles se déroulaient par rapport à sa vie d'une façon chronologique ou en
oui,
plus
oui,
quand même,
non,
il y avait quand même une trame.
C'était chronologique, les répétitions, c'était que, bon, par exemple, le bon Américo, tu l'as connu, c'est un personnage assez singulier. D'abord, c'est un grand parleur. Et il adorait les digressions, quoi, en fait. Il partait, des trucs comme ça. Donc, il y avait des problèmes, c'est que, par exemple, il y avait beaucoup de rapports assez complexes à la théorie, entre autres, marxienne, quoi. Je sais pas, Lukács... c'était Bloch, tout... Il y avait des références, mais qu'à un moment, c'est un choix. Alors ça, évidemment, c'est moi qui ai fait le choix. J'ai fait le choix de regrouper en fin d'ouvrage un chapitre qui s'appelle « Questions théoriques », où là, je prends des trucs qui sont sur plusieurs chapitres. En fait, c'est un travail en fait, de writing. Voilà, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai proposé le manuscrit du vivant d'Américo. Je l'ai proposé à l'échappée. Sur la base, en fait, du manuscrit original de l'Américo, et je crois que les camarades de l'échappée qui ont fait un remarquable travail sur ce livre, en fait, ils ont pris peur, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un travail de réécriture et des trucs comme ça. Et puis, bon, voilà. On ne fréquente que des camarades pauvres, donc ça, en général, tu payes. Et eux, ils ont une équipe de correcteurs qui travaille très très bien, mais ça, c'est autre chose, c'est de la réécriture. Et en fait, les amis de l'échappée m'ont fait comprendre que il fallait que je m'y colle j'avais pas l'intention de demander du pognon, ça allait, donc j'ai fait, c'est un travail militant et un travail que je faisais pour Américo. Et voilà, donc ça m'a pris à temps plus que plein, puisque je faisais des journées de 7h du matin à minuit, quoi. Sur 7 ou 8 mois, quoi.
D'accord.
Et voilà, le résultat est... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, comme lecteur, mais je pense que c'est plutôt réussi, c'est très dynamique comme bouquin. Bon, ça, c'est vrai que les livres d'entretien, quand ils sont bien faits, ça donne une dynamique, mais bon, mais en même temps, c'est quand même très pointu sur beaucoup de sujets. On viendra sur les différents sujets, mais moi, par exemple, sur le chapitre sur 68... m'a énormément intéressé parce qu'il place la focale sur Sancier, par exemple, sur la fac de Sancier, où il dit, bon, de toute façon, la Sorbonne, pour moi, c'était le spectacle. Et en fait, c'est à Sancier que ça s'est vraiment passé. Et c'est vrai que c'était complètement différent, Sancier, parce que Sancier, il existait un comité étudiant-travailleur qui était très, 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 très fort. Et il coordonnait quand même, je sais pas, c'était... une vingtaine de boîtes sur le 13e, quoi, qui était là, donc les autres. Et c'est un chapitre intéressant. Enfin bon, après, on parlera du détail, mais... donc voilà, voilà ce que je peux dire.
D'accord, écoute, je te réponds, je vais poser une question. moi, c'est un bouquin qui m'a passionné pour diverses raisons, effectivement, telles que tu évoques. Avec tout un arrière-plan, avec beaucoup d'informations. Bon, disons globalement, c'est des choses que je connaissais, mais j'ai quand même appris un certain nombre de choses. Surtout, c'est sur ces milieux, je veux dire conseilliste pour aller vite. Enfin bon, je me méfie des étiquettes, mais bon, que je connaissais, hein, j'en ai rencontré, mais j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais quand même... on sent, enfin là, bravo pour le travail que tu as fait, parce qu'on sent vraiment un individu corps en même temps. Tu vois, c'est à la fois tout l'arrière-plan, tout ce qu'il a pu vivre, et on le sent évoluer en plus. Enfin, ça, c'est aussi la matière qu'il a donnée dans ses conversations. On le sent évoluer par rapport aux choses qu'il connaît sur ce qui l'entoure. Il explique au début, il n'avait pas accès à telles informations. Après, comme c'est un très très grand lecteur, etc. Donc, on le suit à la fois dans son itinéraire personnel. Aussi, son itinéraire intellectuel, son itinéraire politique, ça, c'est, enfin, à mon avis, t'as vraiment un bon boulot. Quand je dis boulot, c'est avec un grand B, parce qu'effectivement, ça m'étonne pas que tu aies passé beaucoup de temps, sachant que la matière de base était des échanges, etc. Bon, je propose qu'on fasse, d'abord, je vais donner le titre, je crois qu'on je l'ai pas encore donné, Orage pour un autre rêve, aux éditions L'Échappée, et puis on va faire une pause musicale avant d'aller voir qu'est-ce qu'il faisait quand il était au Mozambique.
au sud-ouest du Mexique, dans la ville de Oaxaca. Cela fait 6 mois que la place centrale de la ville est occupée par les enseignants en grève. Rejoints par les étudiants en grève. Rejoints par plein de gens en grève. Tout autour de la place des barricades, dans la ville, on enfonce jusqu'à 1000. Et de l'autre côté des barricades, évidemment, la police. Et voilà que un matin...
Del año de 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cerrada. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada?
Eh oui, un matin la police a chargé. Sur la place, tout le monde se réveille. Sur les barricades, c'est le branle-bas de combat. Dans la ville, les radios occupées relaient le message d'alerte. Les femmes prennent la télévision et le relaient à leur tour. Et voilà plein de gens qui se rendent aux barricades. Les uns arrivent avec une pierre, d'autres viennent avec un bâton, d'autres encore avec leurs cris.
¿Qué son de la barricada?
en écho au livre sur le Mexique d'Américo dont on parlait tout à l'heure, Le son de la barricade. C'était la compagnie Joli Môme. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc nous recevons Freddy Gomez, donc, qui a beaucoup travaillé pour la mise en forme de ce livre. Je rappelle le titre, « Orage pour un autre rêve », aux éditions L'Échappée, donc, dont la matière de base est des conversations qui sont étalées longuement, enfin on en a parlé dans la première partie, avec un de ses anciens élèves. Bon, enfin on verra peut-être sur, quand on sera sur sa partie à Paris, et qu'il a, il sera enseignant, enfin on en appellera plutôt vers la fin de l'émission. Donc, faut commencer effectivement par sa jeunesse, et forcément qu'il y a eu une influence importante, bon, juste un mot, et puis je te passe la parole tout de suite. Bon, je crois qu'on l'a dit, en fait, il est né au Mozambique en 1939. Et bien, je crois que c'est dans le bouquin, j'ai lu ça, mais ou ailleurs. Je suis fils de paysan, presque illettré, voilà. Bon, je te passe un petit peu la parole pour parler de cette partie. Bon, il est resté, je sais plus, une bonne vingtaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. Enfin,
oui.
Je crois qu'il est parti en 60, au Portugal et à Paris, mais on en parlera à ce moment-là. Voilà.
Oui, alors il est né en 39, Américo, et il est parti au Mozambique quand il avait 7 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Le chapitre est intéressant de ce point de vue-là, parce que Américo, c'est un type qui s'intéressait beaucoup au rapport à la nature, au rapport physique à la nature. Il y a des descriptions dans le...
Oui, la nature sauvage, très tout, on sent que ça l'a marqué. Il aimait bien vagabonder, peut-être plus que l'école d'ailleurs. Oui, ça n'a pas empêché de lire beaucoup.
Oui, c'est ça, quoi.
Attends, juste un mot, parce que je pense que 99% de nos auditeurs sont très calés en géographie. Et pour aller très vite, le Mozambique, c'est Afrique de l'Est, hein. On peut dire, oui, enfin, sud-est, pas loin du sud-est, c'est pas loin
de l'Afrique du Sud. Mais oui,
voilà, d'accord.
Oui, alors ses parents sont... d'extraction populaire. Hein. Son père, il a un poste de petit fonctionnaire des postes, je crois, ou quelque chose comme... Non, ou de la douane, ou...
Je crois que c'est les douanes, oui.
Oui, les douanes.
Enfin, c'est les petits fonctionnaires, quoi.
Ouais. Sa mère est au foyer, il a une... s'occupe du foyer, il a une... il a une sœur.
Qui a 2 ans de plus que
lui. Et qui a une certaine, je pense, influence très discrète sur le fait qu'il est, il est lu très jeune. Dans le livre, il y a absolument des listes absolument étonnantes. En plus, il a une mémoire. Moi, je ne sais pas si toi, tu as la mémoire de ce que tu lisais quand tu avais 7 ans. Mais la sienne est vraiment très, très précise.
Ah oui, c'est très détaillé.
Très détaillé. Et donc, il parle d'une publication populaire là, qui faisait des espèces de digestes de romans, des trucs comme ça. Et donc, il lisait passionnément ces trucs-là. Et voilà. Donc, moi, ce qui m'a frappé sur ce chapitre, c'est cette espèce de prédisposition qu'il y avait chez le gamin à la quête éternelle de la liberté. C'est-à-dire de la liberté vraie, quoi. L'espace, la fugue, toutes ces choses-là. Et c'est très, 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 très bien restitué. Donc après, il rentre à l'école, et l'école... c'est pas son truc, quoi. L'école, c'est la prison, un peu, quoi.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'il redouble.
Deux années, je crois.
Non, mais en fait, ce qu'il aimait bien, c'est se promener, il dit vagabonder, etc. Mais ça l'empêchait pas d'avoir, de lire. Oui, c'est ça qui m'étonne un petit peu. Alors, je me demande, enfin, m'étonne, pas qu'il lise, mais je me demande, il me semble bien qu'il dit qu'en fait, ses parents, c'est pas qu'ils étaient vraiment sévères avec lui, mais il y avait peu d'échanges, en fait. Je sais pas si tu te souviens de ce passage-là.
Oui, le portrait, si tu veux, des parents, c'est plutôt ça, quoi. C'est-à-dire que ils sont l'amour, quoi. Ouais. C'est froid, quoi. Il y a pas
d'échanges, quelque chose de très chaleureux avec eux.
Il y a pas d'échanges, et puis bon, il y a des trucs qui sont à mon avis, qui sont très très bien exposés, quoi. C'était par exemple lui, évidemment, il a des copains de fugue. Mmh. Les copains de fugue, c'est des blancs, des noirs et tout ça, quoi. Mmh. Donc, il y a ce problème. Par exemple, on lui dit, fais attention à pas trop fréquenter les petits africains. Mmh. Et c'est pas pour des trucs de racisme, en fait. C'est le qu'en dira-t-on. Mmh. Enfin, c'est des petits colons.
Oui,
quoi.
Qu'est-ce que vont dire les voisins,
les parents, que vont dire les voisins. Voilà. Et effectivement, les voisins disent, quoi. Et donc, ça, je veux dire, c'est. Je trouve que c'est très, très bien raconté. Bon, en fait, pour aller un peu vite sur l'enfance là, ce qui est clair, c'est que pour lui, l'école, c'est l'école buissonnière, quoi. Mmh. C'est là où il apprend le plus, truc comme ça. Et le reste, parce que je sais pas si tu te souviens, il y a un moment, il dit, moi, ce qui me faisait le plus chier à l'école, c'est que j'étais obligé de mettre les chaussures.
Mmh, ouais.
Donc, il y a cette espèce de force vitaliste qu'en fait il a toujours eu, hein. C'est un truc qu'il a gardé tout le temps.
Oui, ça c'est important de le souligner, parce que tout à fait dans un autre contexte et autre, je ne vais pas du tout raconter ma vie, mais j'ai vécu moi dans une ferme et d'une façon extrêmement libre par rapport à vos grands-parents avec qui j'étais, et ça m'est toujours resté, si tu veux. J'imagine que lui, dans un contexte bien plus sauvage, etc., et magnifique, en plus, bon, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'était au bord de la mer, en fait. En fait, il explique d'ailleurs que les Blancs, en général, vivaient au bord de la mer, et bon, les Africains plutôt vers l'intérieur.
Donc, pour situer, là, ils vivaient à Lourenço Marques, qui est la capitale de Mozambique, qui va quitter à son adolescence, quoi, je crois. Enfin, je pense, oui, c'est à son adolescence, et où il va aller, pour des raisons peut-être qu'on expliquera, à Beira.
Un peu plus au nord.
Et c'est là qu'il va réellement faire ses premières expériences, disons, politiques. Quoi. Surtout dans un ciné-club. Mmh. Une autre caractéristique d'Américo, c'est que c'était un cinéphile absolument fou, quoi. Mmh. Il pouvait te raconter des scènes de films qu'il avait vues qu'une fois il y a 30 ans, avec une précision dingue, quoi. C'était vraiment un cinéphile. Et donc ce ciné-club qui a fondé, donc là il est au lycée et il quitte Lourenço Marques pour des raisons familiales, parce que sa sœur avait décidé d'arrêter ses études à la fin de ce qu'on appelle là-bas le troisième cycle. Elle a arrêté des études préuniversitaires, mais elle n'a pas voulu rentrer à l'université. Et donc, elle avait trouvé un boulot.
Voilà. Donc, ils ont suivi, en fait, la famille.
Et la famille
qui ne voulait pas laisser.
Le père ne voulait pas laisser sa fille.
Jeune femme toute seule.
Jeune femme toute seule. Donc, ils ont tout suivi.
Voilà.
Et voilà. Et donc, là, il rentre. C'est à Beira qu'il rentre. Effectivement, il a redoublé deux fois, en fait. J'ai de vérifier, là. Il a redoublé deux fois.
Oui, je m'en souviens.
Et Beira, c'est une plus petite ville, quoi, en fait. Enfin bon, je crois qu'il y a 25 000 habitants, quoi. Une population très mélangée, des Africains, des Européens en pagaille, des Grecs, des Arméniens, des Anglais, des Juifs, des Allemands. Il y a une communauté chinoise, pakistanaise, hindoue, originaire de Goa, les Gaises. Et en fait, là, c'est un adolescent, quoi. Et c'est là qu'il a, comme je disais tout à l'heure, ses premières prises de conscience un peu fortes, quoi.
Oui, c'est-à-dire, on ne l'a pas dit, mais je pense que c'est évident, enfin j'espère pour les auditeurs, c'est que là, c'était le colonialisme portugais, c'était encore Salazar et tout ça, et donc, il prend quand même conscience concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le colonialisme là-bas sur place, et est-ce qu'il avait des infos, oui, il devait y avoir quand même des journaux sur ce qui se passait au Portugal et tout ça, où il a été nourri surtout de ce qu'il voyait sur place.
Bah, je pense que c'était surtout ce qu'il voyait sur place.
Ouais, d'accord.
Enfin, ce qu'il a vécu immédiatement, c'est le racisme, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et il a fait une espèce d'identification avec le colonisé. Il y a un truc qui est...
qui est absolument clair chez lui. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, qu'il a toujours gardé.
Moi, ah bah, je crois que
les dernières conversations qu'on a eues avec lui sur la montée du racisme en France, je sentais que c'était vraiment un truc qui était en lui et qui était ancré depuis l'enfance. Quoi.
Et les échanges qu'il a à ce moment-là, parce que bon, tu as dit Ciné Club pour voir des films, mais après, il y avait des discussions, beaucoup de discussions. Donc, les milieux qu'il rencontre, enfin, des gens plus ou moins de son âge, c'est des milieux anticolonialistes de l'époque, c'est...
Alors, il est dans un lycée catholique.
Comme ça, comme ça, quoi. Et dans un lycée catholique, en fait, qui sont des fils de Bourges, essentiellement. Et il y a deux, trois profs qui le marquent, dont un dont il parle plus en détail, qui en fait était militant anticolonialiste. Quoi. Et donc je pense que ça part de là, ça part aussi de la conscience... de la conscience qui s'élargit, par exemple, dans les rapports que ses parents peuvent avoir avec... tous les colons ont des boys, quoi, des domestiques. C'est pas des méchants, hein, je veux dire, ils sont pas... Ils racontent une anecdote, à un moment, il y a deux domestiques qui sont partis, faire des courses et tout ça, et qui rentrent pas. Et le père, immédiatement, va voir la police en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe, là? Où ils sont ?» Et finalement, ils ont été arrêtés. Et toi, il les fait sortir de prison. C'est pas la caricature du gros con raciste, le père, quoi. Mais bon, il sent que, c'est quand même il y a une mentalité, qui est la mentalité du supérieur, et il y a ça.
Oui, mais est-ce que... Enfin, de toute façon, on a retrouvé ça, y compris aujourd'hui, mais finalement, ses parents étaient plutôt dans une classe sociale qui était opprimée par la classe des blancs riches.
Oui.
Et puis, en fait, qui s'alliait pas du tout avec ceux qui étaient encore plus opprimés, et au contraire... Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement très souvent, en fait. Je pense que c'est ça que vivaient ses parents, en tout cas le milieu de ses parents, parce que c'était pas du tout des gens riches.
Non, c'est ça, ouais.
Ils exploitaient pas directement dans des entreprises agricoles ou autres des Noirs, mais par contre, ils étaient pas Noirs, quoi, ils étaient blancs.
Après, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, et peut-être je l'ai atténué un peu trop, mais c'est vrai qu'il y a un rapport au père qui est très compliqué, quoi.
Ouais.
Qui est un personnage pour lequel il manifeste pas de haine particulière et tout ça. Parfois même, il essaye de justifier son comportement en disant c'est un homme pris dans ce monde et qui a pas les moyens de s'émanciper de ses préjugés. C'est ça. C'est le ton, je l'ai trouvé très 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 juste, quoi. Il n'est pas c'est pas le ton accusateur. Le père, visiblement, est extrêmement sévère.
Oui, il cherche toujours à expliquer les attitudes, comment les gens sont arrivés là. Y compris lui, d'ailleurs, il décrit son évolution.
Ouais, c'est ça. Le père est extrêmement sévère, et il est sévère, uniquement parce que ça se fait pas par rapport aux autres colons, quoi, parce que on va avoir droit à des remarques. Donc c'est le niveau un peu zéro. Et en fait. Donc je pense que l'émancipation, elle se fait. Bon, ce goût de la liberté dont on a parlé, il est toujours là chez Américo, quoi. Il est là quand il est à l'école, il est là, à chaque fois qu'il est dans des situations où il se sent cerné, quoi. Dès qu'il peut, il s'enfuit. Il comprend très très jeune, quoi, la situation des colonisés. Mais il n'est pas dans des dynamiques politiques. Bon, là, il a. Au moment précis là, où on en parle, il a 14 ans, quoi. 13-14 ans, quoi. Ça vient après.
Oui, ça vient après, mais je pense que ça l'a certainement nourri, parce que c'est quelqu'un qui se nourrit énormément, on le verra par la suite, de ce qu'il peut lire, mais il se nourrit effectivement d'échanges aussi, il aime beaucoup, visiblement beaucoup les échanges intellectuels, mais il se nourrit aussi de faits. le fait réel. Hein. Et il aura toujours cette vision-là. Enfin, il parlera par exemple de la praxis bien plus tard. Mais enfin, en tout cas, bon, quand on parle de révolution, on regarde ce qui se passe réellement, etc. Donc là, on sent que c'est un cheminement qui a toujours, quoi. C'est pas, alors qu'on pourrait dire, ouais, c'est un éléologue, et tout ça, qui s'intéresse. Non, il s'intéresse à ce que peuvent dire certaines idéologies ou certains idéologues, mais il s'intéresse beaucoup aussi à ce qui est au réel. Au réel. Ça, on le retrouve enfin, à travers le livre à des tas d'endroits. Quoi.
Oui.
Bah écoute, je sais pas si tu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Il y a plein de choses à rajouter.
Plein de choses
Ou est-ce qu'on fait une pause musicale?
Moi, c'est juste un petit truc, mais on va terminer sur ça avant de passer. Il y a un truc qui m'a étonné et parfois même je me suis posé la question, est-ce que c'est possible? Parce qu'il fait des listes de lectures et je pense qu'il y a, il y a des bouquins, tu te dis mais c'est pas possible, il n'y a pas pu lire ça, un truc comme ça. Donc je veux dire, moi quand c'était flagrant, je l'ai mis ailleurs, quoi, puisque sur tout le bouquin il parle de ses lectures. C'était vraiment un lecteur boulimique. Et là, quand même, tu te dis, je relis ça à l'idée de la liberté, quoi. Il y a l'idée de la liberté par l'évasion de la lecture. La découverte du monde par la lecture, quoi.
Et ça, ça court sur tout le bouquin. Il lit, il peut lire des livres qui ont un certain intérêt, mais avec des gens avec qui il n'est pas du tout d'accord. Tu vois, parce qu'il va peut-être comparer avec la même personne qui a écrit un autre période, autre chose. Enfin, tu vois, il a vraiment une soif de lire plein maximum de choses. Ça se sent tout le temps. Alors, effectivement, dans les divers chapitres, il y a toujours des listes de livres.
Ah oui, c'est
incroyable, quoi. Ok, on va faire une petite pause, Monique.
Oui, et le Mozambique était une colonie portugaise. Je n'ai rien sur le Mozambique, mais l'Angola aussi était une colonie portugaise. Ah non, là, il y a une petite erreur. Je suis désolée, je crois que c'était pas la bonne... Enfin, je suis même sûre que c'était pas la bonne piste. Je vous envoie ça tout de suite après. Eh ben oui, excusez-moi, je tourne le bouton. Ce serait dommage de louper cette si belle chanson.
Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable, où on joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable, c'est profond, plus fort que toi. Il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer. Cours plus vite, ne dis rien, sous cette pluie de fer.
Mona, Sambi wangi pana mona uwe Ndamu falale Mona mona menewe
Tu n'en parles jamais, toi, toi mon ami, mon frère, qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière?
Mon amour, mon amour, mon mon mon
Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama. Vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière.
Mona, mona, monye, soyez à mona, mona, monye, mona, mona, un calou dans le mona, mona, monye, soyez à mona, 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 monye, c'est moi, calou dans le mona, 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 monye, mona, mona, monye.
Angola, c'était Bernard Lavillier. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc bien sûr, toujours avec Freddy Gomez, qui a beaucoup travaillé pour faire le livre qu'on présente aujourd'hui, donc qui est Orage pour un autre verbe, rêve, la vie donc en fait d'Américo Núñez, à travers des échanges qu'il a eus, et donc c'est aux éditions L'Échappée. Alors là on était encore, on y est toujours, au Mozambique, et donc tu avais évoqué évidemment le rôle important de son investissement dans le ciné-club. Donc tu voulais développer un peu plus cet aspect-là, parce que ça l'a certainement formé d'une certaine façon, notamment à travers les échanges et tout ça.
Oui, je pense que c'est une expérience qui est structurante pour lui, quoi. Même dans sa faction, dans sa façon de fonctionner après comme militant. Il y a un personnage, je pense, qui a été très important au lycée, à Beira, dont il parle, c'est un prof de philo, trotskiste, et qui s'intéressait beaucoup aussi aux expériences littéraires, artistiques, au surréalisme, à toutes ces choses-là. Et je pense qu'il a été très, très important. Mais ce qui est structurant, c'est ce fameux ciné-club de Beira. D'ailleurs, je cite Américo, il dit « Il joua pour moi un rôle fondamental d'apprentissage culturel et de socialisation politique. » Et effectivement, donc, c'était... Bon, d'abord, le ciné-club, alors, il le dit, entre guillemets, il le dit aussi, lui, ça, infesté de communistes et de quelques anarchistes. Et là, il apprend à regarder des images du cinéma, et c'était, je répète, un très très grand cinéphile, et une culture cinématographique absolument incroyable, mais aussi, puisque tous les films étaient suivis de débats, de discussions, il prend un espèce de goût pour la discussion, le débat. Il intervient très souvent et ça. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment structurant. Et évidemment, dans ces milieux, il commence à fréquenter des militants qui sont actifs dans la lutte anticolonialiste. Et je pense que tout part de là. En fait, c'est vraiment la matrice. Commence à se poser des questions de qu'est-ce qu'il va faire. Donc son choix, c'est de déserter. Après, il se pose la seconde question, comment il peut, sans déserter, essayer d'éviter le truc.
Et en fait, il y arrive. Il y arrivera, quoi.
Ça, on verra. Et en plus, c'est une période où le service militaire portugais, je ne sais pas s'il passe pas à 3 ou 4 ans, alors donc, il n'est pas quelque chose. Il tombe sur quelqu'un d'assez compréhensif. Enfin bon, il s'en sort pour une raison apparemment médicale. Hein.
Ouais.
Et bon.
Et là, le Yann Martin lui pose un moment une question. Il lui dit donc, c'est là que tu te construis, en fait, comme futur militant politique. Et il y a une réponse assez drôle. Il dit, tu vises peut-être juste. Lycéen, j'étais déjà un lecteur boulimique et éclectique. Là, j'apprends autre chose. J'apprends une culture marginale. Quant au militantisme, la seule question que je me pose, c'est qu'il faut que jamais il m'enferme. Donc il y a aussi là cette idée de liberté. D'ailleurs, son trajet est là.
Complètement.
Américo, c'était sa définition. Quand tu vois, t'es quoi, il disait toujours, je suis un bakounino-marxien, complètement assumé. Et voilà, et il avait toujours il y avait toujours l'idée de le militantisme est critiquable, et il faut critiquer quand il est critiquable. Et, tout ça. Et en fait, là, je crois que c'est dans ces discussions du ciné-club, c'est un événement matriciel. Quoi.
Oui, parce qu'il arrive dans les, je sais pas, de 18, 19, 20 ans, c'est dans ces eaux-là, j'imagine, qui se construit de ce point de vue-là. Hein,
tant que après, il parle aussi, je sais pas, tu te souviens, il parle d'une grève qu'il y a eu dans le lycée, de la répression qu'il y a eu, de manifs qu'ils ont fait sur une plage et tout ça. Après, il y a plein de détails qui sont plus déjà dans des logiques de résistance militante et tout ça, quoi. Mais je pense que le ciné-club, c'est vraiment, c'est vraiment très important pour lui. Bon, après, il y a plein de choses. C'est un très beau chapitre.
Hein, sur oui, tout à fait.
Moi, fait découvert.
Ah, de toute façon, c'est sûr qu'on donne à notre auditeur une petite idée de ce qu'il y a dans le livre. Mais toutes les choses qu'on évoque, il y a beaucoup de choses en plus qui sont à lire dans le livre, évidemment. Est-ce qu'on quitte avec lui le Mozambique ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter?
Juste un petit mot sur le. Sur donc sa situation militaire.
Oui.
Donc, et il dit, là, quand j'ai été appelé en 60 à passer à Beira, l'inspection médicale militaire, j'étais aussi déterminé dans mon anti-militarisme que dans mon refus des guerres coloniales. Quelque part, au vu de la société où j'évoluais, c'était une folie. Donc, j'ai décidé de jouer au fou. Pour cela, j'avais fait appel par des connaissances au conseil d'un psychanalyste récemment installé à Beira. Et qui, antimilitariste convaincu, était un opposant au régime de Salazar. Quand il a pris ma requête, il m'invita chez lui, où trônaient bien en évidence des bustes de Freud et d'Einstein, et rédigea sans tarder un rapport adressé au médecin militaire présent à l'inspection, lui expliquant pourquoi je n'étais pas apte au service militaire. Donc en fait, c'est comme ça qu'il arrive en jouant au fou, quoi. Et ça, c'est des connaissances qu'il avait eues dans ce fameux ciné-club. Voilà.
Et peut-être, avant qu'il quitte, on peut... Enfin, je ne sais pas si c'est clair dans le livre, mais enfin, j'imagine, connaissant un petit peu le... Bon, enfin, au moins au Portugal, mais j'imagine qu'au Mozambique, ça ne va pas être terrible non plus. Alors, enfin, la PID, là, qui est la police de Salazar, à mon avis, il est quand même déjà un peu repéré, non?
Bon, la question lui est posée par Yann Martin, et en fait, il dit que le contrôle de la PID, en fait, était relativement lâche. Là,
plus souple que par
plus
rapport
souple, à Beira qu'il était à Lisbonne. Ouais. Après, il va à Lisbonne.
Oui, il va 9 mois, pas longtemps.
9 mois à Lisbonne, et là, il est contrôlé, quoi. En fait, il est un truc comme ça, enfin bon, je ne pense pas qu'il ait été... il ne parle pas de répression précise contre lui quand il était à Beira, quoi.
D'accord. Donc il est amené à quitter donc, le Mozambique. Apparemment, enfin en tout cas, ce que je semble me souvenir dans le bouquin, c'est qu'il ne peut pas poursuivre ses études. Il faut poursuivre ses études, théoriquement. En fait, il va surtout, on va voir, poursuivre son militantisme.
Ouais.
Et en fait, j'ai, enfin, en lisant le livre, comme j'ai découvert à ce moment-là, Et après, donc, il va aller à Paris, en 71, en juillet, qu'il connaissait bien le français. Apparemment, déjà à ce moment-là, où il l'a appris hein, quand il est venu à Paris, tu sais pas.
Je crois qu'il avait étudié hein, le français.
Ah oui.
Ouais.
C'est l'impression que j'ai, quoi. Il a l'air bien qu'il était assez à l'aise.
Il dit quand il est arrivé, à Paris, il se débrouillait parfaitement en français.
Voilà, c'est ce que j'ai vu.
Donc il avait dû étudier en langue, quoi, à Beira.
Non, parce que quand on lit tout le chapitre au Mozambique, on a l'impression que bon bah l'école, il est pas bon à l'école, il redouble. Et en fait, il apprend quand ça l'intéresse, il apprend énormément de choses.
Ouais. Bon, il redouble en primaire. En fait, le primaire, l'école, c'est la prison. Mmh. C'est-à-dire qu'il s'en fout. C'est ça. Quand il est à Beira, donc d'abord il connaît des profs qui l'intéressent, notamment ce prof de philo. Je crois qu'il parle aussi d'un prof d'histoire. C'est là qu'il doit faire français en langue. Et là, il est dans une autre dynamique. C'est plutôt quand il est au primaire que, bon, pour lui, il n'y a que la jungle qui l'intéresse, la brousse. et voilà. Donc. Et il arrive à Paris.
À ce moment-là, il a le bac, c'est ça? Je crois qu'il a passé le bac.
Il a l'équivalent, il a l'équivalent du bac. Il arrive à Paris.
Il s'inscrit en propédeutique. Il faut expliquer maintenant pour les auditeurs.
J'ai une idée, mais pas
propédeutique, en fait, c'était 2 années expérimentales. Tu faisais 2 années où on t'apprenait en fait, comment fonctionnait une université. C'était d'ailleurs pas mal hein, comme système, parce que, en fait, les jeunes étudiants étaient moins paumés, trucs comme ça, quoi. Et donc, il s'inscrit en propédeutique à la Sorbonne sans problème. Il arrive à trouver, alors on passe les détails, parce qu'il y a plein de détails, tout ça, quoi. Il arrive à trouver un logement dans une résidence de la CIMAD. Donc, la CIMAD, vous vous rappelez aussi que c'est une organisation d'origine protestante. Et donc, il va dans un foyer de la CIMAD. Je ne me souviens plus très bien où c'est, du côté de Saint-Cloud, quelque chose comme ça, quoi.
Ouais, 60. Ouais. De toute façon, c'est dans la période où il arrive à Paris. C'est juillet 61 et il repart en juillet 63 à Alger. Voilà. Donc, c'est dans cette période-là.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et alors, cette période-là, pour lui, c'est pareil. En fait, là aussi, il y a le sentiment de la liberté. Par exemple, il y a aussi des pages sur le cinéma. Il voit 3 films par jour au quartier latin. Pouvait se le permettre.
Il doit aller dans des librairies en plus.
Parce qu'il fréquente les librairies, c'est une espèce d'émancipation, mais à vitesse très très rapide. Il y a un désir absolu de lecture, de trucs comme ça.
Et il retrouve en plus des gens qu'il avait connus au Mozambique.
Et il retrouve parce qu'il est. On a dit. D'ailleurs, ça, à chaque fois, il en parlait. Comment il s'appelle, cet abruti, qui a écrit. Cette histoire de l'ultra-gauche, là. Bourseiller.
Ah, Bourseiller, ouais.
Bourseiller.
Ah, oui, oui.
À un moment, le fait passer pour avoir été l'un des fondateurs du Frelimo. Et en fait, la seule chose qu'il a faite, il a fondé une organisation universitaire d'étudiants mozambicains en exil ou à Paris, quoi, tu vois. Et voilà, quoi. C'est intéressant aussi le foyer de la CIMAD, parce que le foyer de la CIMAD, c'est un foyer de la CIMAD, c'est-à-dire il y a des réfugiés de toutes les nationalités, quoi.
Oui, il doit y avoir plein de... Enfin, justement, d'échos de plein de pays où il y a plus ou moins des guérillas, éventuellement, des choses.
Et
c'est une période où il y a des guérillas.
Il arrive à être viré, en fait, à se faire virer du foyer de la CIMAD.
Oui, il se fait virer, oui.
Parce qu'en fait, il a été dans un machin plus ou moins manipulé par les staliniens, quoi. Une espèce de rencontre internationale de la jeunesse, je sais pas quoi, ou à Prague, ou je sais pas où, quoi. Et en fait, dans le foyer, il y a beaucoup d'Hongrois qui étaient réfugiés, qui étaient réfugiés après 56. D'ailleurs, c'est assez marrant la façon dont il en parle, parce que il n'y a pas vraiment de discussion. C'est d'ailleurs, eux sont considérés comme des méchants communistes et tout ça, tu vois. Mais quand même, il y a des relations et tout ça. Et quand il revient de son périple là dans l'est,
En fait, il est viré, en fait, par le, comme communiste, comme agitateur communiste.
Par agitateur. Oui, d'ailleurs, viré, Manu Militari, mais il arrive, je ne sais pas où il était parti, quand il revient, sa chambre, c'est fini, il peut partir quasi dans la journée, quoi.
Donc, il est à Paris le 17 octobre 61, où l'ordure Papon s'est particulièrement illustré comme ministre de l'Intérieur. Mmh. Et Yann Martin lui pose des questions sur s'il a participé. On lui a dit que c'était compliqué pour lui de participer à ce genre de manif et tout ça. Parce que,
par rapport au papier, je ne sais plus si c'était pas très clair, sa situation. Et tout.
Mais il suivait vraiment le truc. Il était vraiment intéressé par le mouvement, la guerre d'indépendance, quoi, en Algérie, quoi. Et donc, en fait, c'est vrai que son premier séjour à Paris est un séjour assez court. Mais là aussi, sur un ton très très court, il apprend beaucoup de choses. Mmh. Il devient un peu. Là, on sent qu'il a des sympathies un peu trotskistes parce qu'il a il y a deux copains, en fait. Qui rencontrent, qui l'ont beaucoup aidé, trucs comme ça, quoi, tu vois. Et voilà, mais c'est, en fait, c'est deux ans 63, c'est l'indépendance. 62, l'indépendance. Et en 63, il prend le bateau.
Oui, alors je ne sais plus comment il y a eu l'occasion, il connaissait quelqu'un qui lui a proposé de venir. Il n'est pas allé comme ça.
Hein. Il avait une occasion. Il connaissait un Mozambicain qui était à Alger, trotskiste.
Oui, en fait, c'est ça.
Qui après deviendra maoïste. Il rompra avec lui à ce moment-là. Quoi. Et en fait, qui lui est à Alger. Et c'est comme ça qu'il y va. Mais il y va aussi d'abord parce qu'il croit. Il croit à un socialisme autogestionnaire possible en Algérie.
De toute façon, à l'époque,
c'est un authentique pied rouge. Hein,
L'Algérie venait de se libérer, qui recueillait plein de gens qui se battaient un peu dans le monde et tout. C'était il fallait vraiment être au courant pour savoir exactement ce qu'il a pu voir en restant quand même plus de deux ans.
Hein. Oui, c'est ça.
Et il est parti d'ailleurs avec sa compagne qui sera
sa compagne de l'époque, Pauline, qui est toujours vivante d'ailleurs. Mmh. Une fille extraordinaire, Pauline Santiago. Et donc, en juillet 63, ils prennent le bateau, tous les deux, et ils vont en Algérie sans savoir exactement ce qu'ils vont y faire. Et donc, par cet ami, il apprend que l'ambassade cubaine à Alger... cherche des gens pour une agence de presse qui s'appelle Prensa Latina.
C'est ça.
Et
notamment pour faire des traductions.
Et faire des traductions. Et il postule et il lui donne comme test à traduire un discours de Castro.
Ouais, ouais. Alors, les discours de Castro, des fois...
Alors lui, il percute pas, quoi, tu vois. Il pense que c'est un discours résumé, c'est la totalité du discours.
Toute la nuit, quoi.
Ils font ça toute la nuit, la copine. Et en fait, il est pris sur ça, mais c'est un vrai test. Hein. Et voilà. Sur le chapitre sur l'Algérie, parce qu'évidemment... T'as des connaissances, mais bon, il y a quand même des détails qui donnent. Et ça, j'ai fait relire à un ami Nedjib.
Oui, Nedjib, j'ai vu qu'il avait travaillé un peu avec toi sur cet aspect-là, j'imagine.
En fait, mais simplement pour me dire s'il y a des incohérences,
oui, bien
des
sûr.
Trucs comme ça, il m'a dit non, c'est plutôt juste, même sur le climat, quoi.
Oui.
Il y a un climat sur les fractions internes au pouvoir, quoi. Le réseau Curiel, le réseau machin...
Oui, mais c'est... Je savais que ça existait, mais apparemment, il y avait une espèce de nébuleuse, ça bouillonnait un peu, on s'accusait plus ou moins certains d'être éventuellement infiltrés. Enfin, c'était une ambiance à la fois certainement intéressante, parce qu'il y avait des gens diverses obédiences et divers pays, mais en même temps, un peu des soupçons, enfin, quoi, c'était assez particulier. Enfin, ça, il le décrit bien.
Alors, cette partie sur l'Algérie... Alors là, oui, je l'ai restructuré en deux parties, en deux chapitres sur l'Algérie, parce que, disons, Indépendamment de ce qu'il ressent. Là aussi, en Algérie, il continue, t'as vu, à aller souvent au cinéma. Ah, bah oui. Disons, pour moi, le truc intéressant, en plus de ses impressions sur l'Algérie, les choses qu'il sent, les conflits à l'intérieur du pouvoir, ils sont vraiment arrivés le coup d'État de Boumediene. Mais il y a quand même ce truc qui est incroyable, c'est sa rencontre avec le Tchad. Donc ça faisait un énorme chapitre. Et en même temps, il continuait à parler du Tché dans d'autres chapitres. Donc moi, j'ai regroupé ça en un chapitre. Il faut raconter, parce que c'est quand même extraordinaire. Il arrive en fait un jour, pour des raisons professionnelles, il va à l'ambassade à Mérico. Et en fait, il remarque qu'il y a deux salles d'attente en fait à l'ambassade. Il y a une salle d'attente avec des fauteuils et une salle d'attente avec des tabourets. Et en fait, il voit dans la salle d'attente où il y a des fauteuils, il n'y a personne qui attend. Et dans la salle d'attente où il y a des tabourets, il voit un type avec un béret sur la tête et il regarde. Il dit putain, mais ça me dit quelque chose. Et en fait, c'est le Tché qui est de passage à Alger parce qu'il y a un congrès à ce moment-là. Tiers-mondiste, à Alger, un congrès qui était très important, puisqu'il y a eu le discours du Tché, quand même, qui a parlé pour la première fois de l'impérialisme soviétique. Il n'y a pas que l'impérialisme américain, il y a l'impérialisme soviétique, c'est un truc. Et en fait, donc, lui, il percute, ça veut dire qu'il a quand même un espèce de sens politique. Il dit, merde, mais s'il est là sur son tabouret, le Tché qui déjà, à l'époque, est un personnage quasiment mythique, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est sur... il est sur la voie de sortie, quoi.
C'est un peu la période, effectivement, où là, il est critique par rapport à l'URSS, il se rapproche plutôt du maoïsme, enfin, en tout cas de la Chine, et donc il est déjà un peu suspect par rapport à Monet. C'est décrit, en tout cas, dans le bouquin.
Et il est surtout sur la thèse
mis sur la touche, quoi.
Poursuivre la révolution, quoi. L'étaler à la Bolivie, révolution permanente, c'est une espèce de romantisme révolutionnaire qui cultive en même temps. Et donc j'ai dit, oh, tchè, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Et l'autre, on m'a dit d'attendre, ce qui prouve que c'était un militant quand même, un militant communiste. Quoi. On lui dit d'attendre, il attend. Quoi. Et il n'a pas l'idée de s'asseoir sur un fauteuil, il est sur son tabouret. C'est intéressant du point de vue du. Et il lui dit, mais comment ça, ils te prennent en charge, là, à l'ambassade? Alors là, tu fais comprendre que vraiment le minimum, quoi. Et l'autre, il lui dit, viens bouffer le soir avec nous à Plaza Latina, il y aura toujours à bouffer pour toi et tout ça. Donc, et l'autre, il va, et donc il y a des espèces de conversations. Il lui pose, par exemple, il y a une longue conversation à un moment sur la Hongrie. Où en fait, Américo lui fait sentir que c'est une révolution ouvrière qu'on est en train de réprimer, et l'autre, en fait, défend tout l'argumentaire stalinien, quoi. Et Américo dit qu'il pense qu'à certains moments, quand même, il le fait un peu douter, et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant comme
portrait humain. Oui, et puis en plus, humain, si tu veux, quoi, j'ai l'impression que le. Enfin, d'ailleurs, c'est pratiquement dit clairement par lui. Évidemment, il est intéressé par les positions politiques, éventuelles contradictions, évolutions, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est cette espèce de figure de révolutionnaire romantique, c'est surtout ça qu'il touche, tu comprends?
Oui, c'est ça.
Il me semble qu'il le dit, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. C'est un individu, quoi. Là, qui est en train d'être mis sur la touche par le régime qu'il a mis en place. D'ailleurs, il y a beaucoup de phrases par la suite où il analyse justement ces moments de libération. Quand ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir, quoi. Voilà. Ouais. Avec tout ce que ça implique.
Après, t'as raison. Après, il y a une analyse quand même assez fine.
Oui. Et
plutôt savante, quoi.
Complètement.
D'Américo sur.
Non, parce qu'on pourrait dire, ça y est, il a vu le Tché, il est en admiration, il a des convertis. Non, d'abord, on le convertit.
En fait, là,
pas.
Il voit, lui, ce qu'il voit, c'est un mec qui est un dissident, quoi. Un truc comme ça. Et donc, bon, après, c'est un personnage qui lui est sympathique. Quoi. Mais après, tout son. Le chapitre qui est consacré au
aux allées et venues du Che à droite à gauche et tout ça, est quand même assez critique, quoi.
Complètement, oui. Ah oui, 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 c'est d'ailleurs étonnant, parce que effectivement, tu, dans le livre, tu, avec les échanges, tu as l'impression qu'il a, il aime beaucoup ce personnage, il est très proche de lui, puis à un moment, je ne sais pas si c'est une réponse à une question, il dit, en fait, non, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, mais, mais il n'empêche que c'est des moments qui l'ont nourri, qui ne rejettent pas du tout.
Oui, oui.
Oui, mais ça, c'est, on sent bien le personnage d'Américo à travers ça. Et c'est assez. Enfin, il faut lire le livre, quoi, parce que ça arrive comme ça.
Ouais. Bah alors, là, en plus, on a emballé un peu le le rythme, la discussion, pour essayer de parler au maximum de chapitres du bouquin, quoi. Mais c'est quand même. Moi, j'étais tout à fait étonné, parce que tout ça, en même temps, est. Truffé de références théoriques, c'est-à-dire une discussion avec le Che, il dit « Ouais, mais on voit qu'il n'a pas lu ça, ou qu'il ne connaît pas ça, et tout ça. » Donc, il y a une espèce de digression et tout ça. C'est... Moi, je trouve ça, à lire, c'est quand même fort, quoi, tu vois. Et là, en fait, sur le Che, ce qu'il dit sur le Che, non, non, ça ne tient pas du... Ça ne tient pas d'admiration inconditionnelle.
Non, non,
il est toujours sur le truc comme ça. Et puis il dit, bon,
non, non, pas du tout.
Après, il y a un truc, c'est une espèce de fuite en avant vers la mort, quoi. Vers la mort attendue, quoi. Mais par exemple, sur le fait qu'il soit argentin, ça, c'est intéressant aussi. Qu'en fait, il n'ait jamais eu sa place à Cuba. Pas parce qu'il était fils de bourgeois. Parce qu'en fait, il était fils de médecin, Mais en fait, c'est un Argentin, donc c'était pas un vrai Cubain. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Quoi.
Oui, oui. Voilà. Juste un mot quand même avant de quitter l'Algérie, parce que je pense que l'aspect... enfin, il en parle d'ailleurs, des phrases sur l'autogestion qu'il avait attirée. Bon, juste un exemple dont je me souviens, mais il en donne d'autres. Enfin, d'abord, il faut bien comprendre la situation. Il l'explique en Algérie. En gros, c'est les colons qui tenaient à la fois les grandes exploitations agricoles et puis les usines, l'administration. Les colons s'en vont pratiquement à 98%. Et donc. Il y a Ben Bella qui arrive, il faut unifier ce peuple, et donc on lui fait miroiter l'autogestion. Et ce dont je me souviens, c'est, comme il aime bien décrire des choses pratiques, à un moment il y a un congrès dans le milieu paysan, donc les paysans ont nommé des délégués, tout ça, parce qu'ils avaient quand même repris les terres de ces grandes exploitations. Et en fait, après, il y a quelque chose pour coordonner à l'issue de ce congrès. Mais par contre, tous les délégués paysans étaient mis de côté, c'est le parti qui nomme les délégués.
Oui, c'est ça.
Et bon,
et là,
il a pas besoin de mettre un commentaire, on comprend, quoi. Et moi, j'ai vécu à travers un livre la même chose, c'est pour ça que ça m'a intéressé, mais dans le milieu industriel, petite industrie, où ça s'est passé exactement de la même façon. Donc, en fait, le mot autogestion avait été lancé par Ben Bella avec des grands discours, mais dans la réalité, c'est l'État qui crée des fermes, des grandes fermes collectives, des fermes d'État, etc. Bon, voilà, je ne développe pas plus, mais je pense que ça lui a... Moi, j'ai l'impression que son séjour en Algérie...
Il y a aussi juste une anecdote, il y a une anecdote qui est marrante, je ne sais pas si tu te souviens, c'est que... Parce qu'il y a ça aussi qui rend le livre vraiment vivant, c'est qu'il y a plein de petits détails, d'anecdotes. Donc, en fait, au moment du coup d'état de Boumediene, lui, il va voir un film... Il est au cinéma. En fait, il a suivi un peu la manif contre Boumediene. Et puis, il y a un moment, il termine la soirée au cinéma. Et en fait, il y a un chauffeur de Prensa Latina qui vient le chercher. Et en fait, il lui demande, qui est donc algérien, et il lui demande « Et qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Et le mec fait cette réponse, il dit « Ben Bella Boumediene ». C'est kiff kiff.
Oui, oui, oui. lui, enfin pour ceux qui ne se rappellent pas, juste un mot, en fait Benvela, pour revenir au pouvoir, il s'est appuyé sur Boumediene, qui était le responsable de l'armée extérieure, pour aller vite, qui était en fait, après, il y avait ceux qui sont battus à l'intérieur, ils étaient malheureusement, pour eux, effectivement, beaucoup moins organisés, ne serait-ce pour des raisons de la répression, et c'est donc cette armée extérieure qui a aidé Benvela à mettre en place, et qui l'a mis de côté par la suite. Ouais. Et effectivement, ils parlent aussi, mais là on ne va pas en parler, le noyau de création du FLN, comment il s'est un peu éclaté, ceux qui étaient en Kabylie, enfin bon, ouais. c'est quand même un chapitre important pour comprendre ce qui s'est passé en Algérie dans cette période-là, qui est quand même une période assez clé, parce qu'il y avait des gens... paysans ou ouvriers qui pensaient quand même reprendre les choses, pas forcément pour que ce soit un État qui fasse, qui prenne tout en main. Voilà, je sais pas si tu veux aller au-delà. Il y a encore d'autres choses sur l'Algérie. Et donc, on va faire une pause musicale. Tiens.
C'est la révolution, par-delà les nations. C'est la révolution. Cette nuit j'ai rêvé de nous, de notre révolution. Oui, ce rêve était fou, autant que nous l'étions. Nous étions décidés à sortir de l'ombre. Nous avions les idées, pour nous la force du nombre. Nous nous étions levés, nous partions en mission. Nous étions rassemblés, nous étions des millions. Le combat nous le menions aux quatre coins de la terre. Nous ne reconnaissions ni leur nation ni leurs frontières. Chacun de nous portait sa couleur, son histoire. Nos différences étaient tellement dérisoires. Sans compromission, nous savions qui nous étions. Nous savions contre qui et pourquoi nous nous battions. C'est la révolution,
face à la peur et la haine.
C'est la révolution. C'est l'assaut, il sonnait l'alarme. Les soldats devant nous, soudain baissaient les armes. On chantait peace and love au milieu de la bataille. Oui, shalom, paume, non pas saran. Ils brandissaient la peur, la parano et la haine. On leur parlait d'amour, ils nous écoutaient à peine. Dans leur château là-haut, et nos rois et nos reines enfilaient leurs manteaux, s'inquiétant de la scène. Pour eux, nous n'étions qu'un ramassis d'imbéciles. Tout cela ne rime à rien, leur révolte est inutile. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils n'avaient plus d'avenir. Ils pensaient tout savoir, mais ils n'avaient rien vu venir. C'est la révolution,
face à la peur et la haine.
C'est la révolution. Soyons des poètes, soyons des pirates, car la vie est trop courte pour ne jamais se battre, pour ne jamais écrire, pour ne jamais aimer, pour ne jamais sourire, pour ne jamais danser. Comme dans ce rêve, levons-nous et prenons tout entière notre part au combat, notre part de lumière, notre part de bonheur, notre part d'insouciance, notre part de labeur, de besogne et de souffrance. Ce qui nous est permis, ce qui nous est offert, dans un monde endormi où tout est à refaire. Notre pain rien de plus, notre aller sans refus.
dure, notre part de sueur, de passion et d'amour. C'est la révolution.
Face à la peur et la haine,
c'est la révolution. C'est la révolution. C'est la révolution.
Eh bien, c'était HK, la révolution dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc aujourd'hui, nous échangeons donc avec Freddy Gomez, qui a beaucoup travaillé pour la sortie de ce livre, très récente d'ailleurs, hein, je crois.
Oui, c'est en mai.
Orage pour un autre rêve, vous y sont l'échappée, évidemment, on accompagne ou on est accompagné dans notre mission par Américo Nunez, qui nous a quittés le début de l'année dernière. Donc on était, pour ceux qui n'auraient pas écouté... la séquence précédente, il était avec sa compagne en Algérie. Dans l'année 65, donc, il a rencontré le Che, bon, on en a parlé hein, tout à l'heure. Et ben, dans l'année 65, il s'est passé pas mal de choses, coup d'état de Goumedienne. Et en plus, son travail, enfin leur travail, je crois que sa compagne travaille aussi. Bon, à cette agence de presse cubaine, je crois qu'elle arrête. Et donc, bon, il part. Et il va arriver à Paris, donc on va parler de ça. Juste avant, bon, j'ai une citation extraite du livre par rapport à, disons, à l'intérêt qu'il a pu porter justement à tentative d'indépendance armée dans divers pays d'ailleurs, et notamment en Algérie, qu'il a pu constater sur In Vivo, quoi. Une phrase qui alors je ne sais pas s'il la prononce à ce moment-là ou plus tard, mais en tout cas, il tient, c'est ça, son expérience concrète qui l'a amené à dire: la lutte armée, là où elle triompha, conduisit à l'instauration de régimes nationalistes despotiques. Bon, il pensait pas. Sans doute à l'Algérie, mais je pense pas que... Bon, peut-être c'est plus tard qu'il l'a dit, mais enfin, bon, comme on a parlé quand même pas mal de ces révolutions dans le tiers-monde, voilà. Donc, il arrive à Paris, alors il n'y a pas tout de suite mai 68, donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent, on va essayer d'aborder un peu rapidement, bien sûr, par rapport à tout ce qu'il y a à dire.
Alors, ce chapitre s'appelle « Pour en finir avec le tiers-mondisme ».
Ouais, ben voilà. Ben, tu vois, j'ai bien introduit, alors.
Oui, donc il arrive à Paris en 65. Et là, c'est la période où... à la base, je crois que c'est une histoire d'amour. Il se sépare de Pauline, sa compagne. Et il tombe amoureux de... qui sera sa compagne d'après, Catherine. Qui en fait est militante à Pouvoir Ouvrier. Qui est donc une scission de socialisme ou barbarie.
Donc, je pense qu'il va falloir que tu expliques. Enfin, ça t'a peut-être prévu. Bon, moi, j'ai connu un peu ça, donc je sais à peu près. Enfin, à peu
vas-y,
près.
Vas-y, hein. vas-y, vas-y, vas-y.
Donc, tu vas peut-être un peu l'expliquer à travers peut-être sa vision à lui.
Non, non, mais vas-y. Alors.
Ah non, je préfère
un peu ça, toi. Alors, c'est... Oui, enfin, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais disons qu'il y a un débat interne à socialisme ou barbarie,
qui est cristallisé beaucoup autour de deux grandes figures. Donc, les camarades, parce que je considère que c'était des camarades, Castoriadis et Lefort, sur la question de l'organisation. C'est-à-dire, on
Attends, ce milieu-là, enfin, c'est difficile de le caractériser. Est-ce qu'on peut dire que qu'ils étaient favorables au conseil ou pas
hein? Bah, oui, je pense qu'on peut.
Enfin, un conseiliste, quoi.
Je pense qu'on peut le dire. D'ailleurs, conseil ils ont publié une très intéressante correspondance entre entre Castoriadis et Pancook.
Oui, oui. Oh, moi, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'échanger avec Castoriadis. C'est quand même quelqu'un d'assez intéressant. Ouais. Hein.
Donc, ils étaient proches de cette sans se revendiquer vraiment de ça, quoi. Mais c'est des marxiens critiques, quoi. Et ils étaient très ouverts, en fait. D'ailleurs, il faut rappeler que, par exemple, sur l'Algérie. Ils avaient quand même des personnages là-dedans qui étaient quand même extraordinaires. Il y avait Léotard, qui est... Léotard, pas Léotard.
Léotard.
Qui a mal tourné, puisqu'il a fini théoricien de la postmodernité. Mais bon, il a... Par exemple, c'est lui qui suivait les questions algériennes pendant la guerre d'Algérie. Et quand tu relis, moi, je les ai relus à la faveur du travail sur Américo, parce qu'il fait plusieurs références aux articles de Léotard. Et putain, c'est d'une intelligence et d'une capacité de prévision extraordinaire, quoi. Tout en étant dans la lutte pour la libération nationale et tout ce truc-là. Donc des hommes de talent. Et alors la cause de la situation, bon, il y a deux vedettes, hein, qui sont indiscutables, qui sont Castoriadis et Lefort, où il y a des fortes divergences entre eux. Et la scission se fait sur... Castoriadis, à un moment, pose la question de l'organisation. C'est une revue, c'est un groupe plus ou moins informel, et donc il est dans une démarche de créer une organisation autour de... Et les anti-organisationnels, en fait, scissionnent sur cette question-là et fondent une tendance, qui s'appellera la tendance, d'ailleurs, avant de s'appeler Pouvoir ouvrier, et Lefort rejoint en fait Pouvoir ouvrier. Donc c'est une espèce de rupture en fait du noyau, disons, j'allais dire dirigeant, mais enfin, c'est pas le bon terme, disons, des deux personnages qui étaient pivots en fait de ce truc-là. Et donc Pouvoir ouvrier est sur une position plutôt basiste, anti-organisationnelle, truc comme ça. C'est d'ailleurs curieux que Lefort, vu son évolution postérieure, je pense que c'est plutôt un conflit qu'il avait personnel avec Castoriadis.
Moi, je pense aussi.
Un truc comme ça.
Deux très fortes personnalités, parce que c'est pas n'importe qui comme ça, dans la même organisation. Bon, oui. C'est difficile à cohabiter des fois.
Oui, c'est ça. Il y avait un autre cas, là. Il y avait un ancien poumiste espagnol, Vega. Que j'ai connu d'ailleurs.
Ah oui.
Oui. Et qui était vraiment un léniniste, quoi, en fait. Ouais. Il s'est trouvé dans le Pouvoir ouvrier, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, en fait, Américo, un jour, je sais pas, je me souviens plus très bien du contexte exact, il rencontre cette Catherine, qui, donc, il parle à un moment de l'Algérie, de la politique et tous ces trucs-là.
Et elle était au Pouvoir ouvrier.
Et en fait, elle lui file des références sur Pouvoir ouvrier, et notamment, il découvre les articles de Lyotard, et il est stupéfait, quoi. Il dit, mais putain, mais moi j'ai mis trop. Il a compris assez vite, hein, Américo, mais en fait, bon. Et en fait, il avait pas lu, il lisait pas. Et il rentre à Pouvoir ouvrier, et là, disons, tout son horizon, en fait, s'ouvre sur ce que lui appelait la gauche communiste, quoi. Et c'est une étape très, très importante, comme sera plus tard la découverte de l'international situationniste. Et voilà, donc c'est un moment important, cette période parisienne, son deuxième séjour parisien qui sera là, parce qu'il restera parisien toute sa vie. En plus, c'est un vrai parisien, il connaissait très très bien Paris. Et,
mais qui l'ouvre à plein d'imaginaires. Donc là, par exemple, c'est pareil, il fait des listes... parce qu'on essaye de raconter ça un peu chronologiquement, mais ce qui est étonnant, c'est que... et ça, c'est un truc que je voulais vraiment conserver, parce qu'il était comme ça, en fait, quand tu parlais avec lui, il était comme ça. Qu'à un moment, tu parlais et tu disais « Mais t'as déjà lu ce bouquin ?» Et toi, tu disais « Mais putain, pourquoi il me parle de ce bouquin ?» Et en fait, lui, il y avait une espèce de cohérence, quoi. C'est-à-dire que ce bouquin-là, il l'avait lu à un certain moment de sa vie, il l'avait relu 5 ans après, et là, il n'est plus aussi enthousiaste et tout ça. Il y a un rapport permanent, dialectique.
Mais moi, ce que j'aime bien chez lui, entre autres, hein, c'est que, bon, on pourrait dire, il tombe sur un bouquin, il va tomber complètement en admiration de la thèse. Ben non, pas du tout. Il garde l'esprit critique, ça qui l'intéresse. Bon, si c'est des bouquins sérieux, et puis ça lui donne envie d'en savoir un peu plus. Puis finalement, il s'enrichit de plus en plus d'informations sur ce qui a pu se passer dans d'autres pays, sur l'histoire du Mont Voyer, sur etc. Quoi. Il avance et il garde toujours sa liberté intellectuelle. Hein.
Ouais.
Ça se sent, quoi.
Ouais. Donc là, c'est une grande période de découverte, en fait, d'autres imaginaires politiques, anti-léninistes, disons, pour être clair. Et c'est un chapitre qui conduit doucement vers 68, qui pour lui est la confirmation que là, il a trouvé une espèce de voie, quoi. Par exemple, chaque fois qu'il théorise le spontanéisme, par exemple, il le théorise bien, quoi. Et voilà, donc le chapitre est suivi d'un chapitre sur 68, qui est un des chapitres, d'ailleurs c'est intéressant, où l'étudiant dont il a fait l'entretien, Yann, intervient le plus. Parce que son père a été 68ard. Et il a des souvenirs très très précis. Son père était prolingue et en fait, il a des souvenirs de lui et sa mère allant les soutenir alors qu'ils occupaient leur usine et tout ça, quoi.
Oui, on voit les questions qu'il pose plusieurs lignes dans sa brochure.
Et là, c'est vraiment une conversation entre les deux.
Oui, c'est une conversation, c'est un échange.
Et en plus, c'est très intéressant parce que Américo, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il a eu une expérience de prof qui était vraiment... Enfin, je sais pas si on en a parlé, mais moi, j'ai connu plusieurs étudiants formés par Américo. Il y avait un rapport absolument incroyable, quoi. C'était vraiment un passeur, quoi. Un passeur d'idées, comme ça. Et voilà. Donc, le chapitre sur 68 est très intéressant parce qu'il le centre sur... sur l'expérience de Censier, qui en fait est l'anti-Sorbonne. On en a parlé ça déjà ou pas?
Non.
Donc la particularité de Censier, c'est que c'était d'abord c'était l'anti-Sorbonne, c'était pensé comme ça, quoi. La Sorbonne, c'était un peu le spectacle au sens de Bordien, quoi, révolutionnaire, machin. Et à Censier, c'était vraiment le truc, c'était faire une base à partir de la création, c'est-à-dire déposséder les étudiants de leur fac, mais faire une espèce de voilà. Comité ouvrier.
Presque de commune, en fait.
Une commune, une expérience de ce type, quoi. Et quand même, qui a coordonné. Enfin, moi, je me souviens d'assemblées qui duraient toute la nuit à Censier, où il y avait, je sais pas, une vingtaine de boîtes des environs qui étaient représentées sur des positions générales critiques des syndicats, quoi. Mais c'était très, très intéressant, quoi. Et puis, par la suite, donc... Il y a aussi un truc qui revient souvent dans le bouquin, c'est donc l'importance qu'a eu pour Américo la vieille taupe, la librairie, où il est tombé par hasard. Un jour, on ne lui avait pas indiqué l'adresse, un jour, il se balade, il tombe sur une revue, sur une librairie. Qui avait affiché les thèses de Feuerbach de Marx. Et en fait,
il les lit et c'est un truc, c'est énorme pour lui, quoi. C'est un autre Marx, quoi. Ouais. C'est le jeune Marx, hein, et en fait, il les connaissait par cœur. Il pouvait réciter toutes les thèses de Feuerbach. C'est pas très long, hein, c'est un texte pas très long. Mais en fait, il connaissait les thèses de Feuerbach par cœur. Et il rentre, et bon, et là aussi, il tombe sur plein de revues, qui sont des revues dissidentes, du stalinisme, du trotskisme, des trucs comme ça. Et il tombe sur ce personnage de Guillaume, Pierre Guillaume, qui tenait la librairie, mais il voit aussi qu'il y a une espèce de cénacle, là, de gens qui discutent, etc. Et ça a été très, très important dans cette phase de formation où c'est ouvert à plein de l'univers. Et la rupture, en fait, il l'a fait très, très rapidement. Donc, dès les premières, ce qui sont, lui, comme des dérives négationniste évidente, quoi, et en fait ils le sont très très vite, et il se gourre pas, quoi. Il est pas tout seul, hein. Il y a Jacques Bénac, il y a Robert Paris qui font un texte dans Libération qui est d'une clarté limpide, quoi, tu vois, et c'est très important. Mais par exemple, au moment de Censier et tout ça, dans le groupe étudiant, il y a Guillaume est encore là, quoi, tu vois, et bon, c'est intéressant, quoi, parce que en fait, c'est un truc qui me touche. C'est-à-dire, c'est des gens qui bougent. Mmh. C'est des gens qui bougent dans leur tête et qui cherchent quelque chose, quoi. Mmh. Et ce truc, par exemple, moi, je lui disais, mais c'est quoi ce truc Parce que il me disait, moi, je suis bakouninou-marxien. Je dis, moi, j'en fous, moi, ça me dérange pas, mais ça veut dire quoi exactement? Il dit, en gros, ça veut dire que pour faire la révolution, il faut des Bakounines, et il ne faut pas passer sa vie au British Museum. Mais ce n'est pas inutile non plus d'avoir des gens comme Marx, parce que ça tient la route sur bien des sujets et tout ça. Et il y avait ce truc, mais bon, c'est un homme... en même temps, c'est un homme libre, tu vois, ce qu'on disait au départ sur... les liens sont très forts, les liens affinitaires et trucs comme ça, mais bon... Quand il s'enferme, il casse, quoi. Tu vois, il peut pas supporter cette espèce de truc qui est, alors je dirais pas consubstantiel, mais qui est quand même, c'est le puis-je dire ça sur Radio Libertaire ? Je me le permets, parce que je me permets tout ici. C'est que le militantisme, comme disaient les situationnistes, peuvent être le stade ultime de l'exploitation.
Il y a une phrase sur mai 68 qui a certainement, même s'il n'a pas pu, il explique qu'il n'a pas pu aller sur les barricades et trucs, parce qu'il y avait toujours, il était un peu précaire par rapport au papier.
Il faisait gaffe.
Mais ça ne l'a pas empêché à travers Censier, mais au-delà de ça, sentir ce qui se passait. Moi, il y a une phrase qui m'a bien plu. Il dit en mai 68, une quête à grande échelle de la véritable communauté humaine. C'est-à-dire qu'il se rendait compte que, enfin, il se rendait compte par toute sa vie, en fait, que même si on arrive à changer réellement les choses, etc., ça, on va former des communautés avec des gens qui ne seront pas forcément d'accord entre eux. Et il faut que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une envie de vivre en communauté. Il y a eu ça quand même en 68. Enfin, moi, j'ai vécu l'intérieur d'une boîte. Enfin, l'intérieur. Et puis, en allant voir partout. Il a senti ça. Bah, sans doute aussi, les contacts.
Bah oui, non, mais c'est un truc qu'on sentait, quoi. Moi, j'avais 17 ans, j'étais lycéen. Et je peux te dire que j'ai senti un truc qui a bouleversé complètement ma vie, quoi. C'était ça, en fait. C'est vraiment le truc que tu fais communauté humaine, quoi. Ce qu'on a senti chez les Gilets jaunes aussi.
Je propose une dernière pause musicale et puis on va voir le temps qu'il nous reste, ce qu'on va pouvoir dire peut-être une amorce sur son,
une amorce.
Quand il a été, enfin ça a été important pour lui, hein, quand il a été professeur, enfin qu'il a eu des à la fac, enfin tu expliqueras.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images, nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands et de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies.
La vie s'écoule, interprété par Serge Géroyo. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc, une dernière séquence, un peu courte, pour évoquer, hein, parce que bien entendu, on donne un certain nombre d'éclairages, mais c'est pas, il y a énormément de choses dans ce livre. Je rappelle, Orage pour un autre rêve, aux éditions L'Échappée. Donc, nous sommes avec Freddy Gomez. Avant de te repasser la parole, peut-être cette chanson m'a fait penser à une phrase que j'avais notée d'ailleurs, qui est dans le livre, de Federico, d'Américo. On a un copain, il s'appelle Federico. Bref. Que tu connais peut-être d'ailleurs. Bref, mais qui est italien. Donc la phrase, c'est « Pourquoi les révolutionnaires sont-ils toujours les vaincus de l'histoire ?» Voilà. On pourrait demander peut-être à Michel Ragon aussi. Bon, donc il y aurait quand même quelques instants, je rappelle qu'il était revenu en France après un séjour en Algérie. Bon, on a parlé de ce qu'il a pu faire, le pouvoir ouvrier, etc., les contacts qu'il a eus. Quand même quelque chose qui est important par la suite, même s'il a pris le choix à sa retraite en 2014, il a enseigné, donc tu peux dire dans quel cadre, et puis tu en as un petit peu parlé, mais c'est pas un enseignant comme ça qui laisse pas de traces à ses élèves, enfin trace positive, j'entends.
Et donc après 68, il met un peu de temps avant de terminer son cursus universitaire. Donc il est à ce qu'on appelait, non, je crois que ça s'appelait déjà EHESS.
Ouais,
mais, je crois que c'était l'école pratique des hautes études avant. Mmh. Et où il fait d'ailleurs travail sur Magone. Sa thèse, c'est sur Magone. Et puis après, il zone un peu. Et puis par des réseaux, comme ça, il y a un copain qui lui dit « Mais pourquoi tu postules pas à Vincennes ?» C'est une fac donc, qui vient de s'ouvrir après 68. Et en fait, il postule...
et on lui propose une place, on lui propose un poste à Vincennes, au département de géographie. Mmh. Et le mec dit, mais je suis pas géographe, moi, je suis historien. Mmh. Et la réponse du département, c'est, on s'en fout, on fait de l'interdisciplinarité. Mmh. Et en fait, ça l'emmerdera dans sa reconstitution de carrière, parce qu'en fait... Et il y a un moment, il dit, on ne peut pas vous compter ces années-là, puisqu'en fait, vous étiez géographe, en fait, vous enseignez comme enseignant. Bon, il a réussi à faire rectifier son truc et tout ça. C'est l'esprit. Alors, il y a un chapitre sur Vincennes qui, moi, m'a fait vraiment rire, quoi, parce qu'il y a une description de Vincennes qui est un truc. Mais bon, pour quiconque a fréquenté cet endroit, moi, par exemple, toi aussi, j'imagine que ça t'est arrivé.
Je n'ai pas fréquenté, mais j'ai fréquenté des gens qui avaient fréquenté.
Pas comme étudiant, mais je suis allé assister à
je connaissais un peu l'ambiance. Ouais. Hein.
Et c'est extrêmement bien décrit, parce que, par exemple, il parle du département. Il y avait un département cinéma à Vincennes, qui était contrôlé par les maoïstes.
Ouais.
Et en fait, les mecs, ils avaient une référence, c'était le petit livre rouge. Quoi,
tu vois. Ah oui, bien sûr.
Et bon, il y avait des anarchistes complètement délirants d'un autre côté. Enfin, il y a un portrait extrêmement vivant de Vincennes. Et on sent, bon, enfin... on sent qu'il y a une passion, quoi. Une passion de l'enseignement. Et en fait, on en parlait tout à l'heure en off, là, je me souviens de son incinération. Il y avait plusieurs générations d'étudiants. Et j'ai parlé avec eux, quoi. Je leur demandais. Et en fait, c'est un personnage essentiel dans leur vie. Et ça restait un personnage essentiel. C'était l'archétype de l'enseignant 68-art, quoi. C'est-à-dire, par exemple, il disait, au printemps, il disait aux étudiants qu'il avait, il disait, putain, on crève de chaud dans ces lieux, ça va finir en bas, à l'extérieur, ou à une terrasse de café, je vous invite, et tout ça. En fait, il disait des liens énormes, et en plus, il offrait des pistes. C'était pas l'enseignant qui... Il offrait des pistes. Et donc, il a enseigné à Vincennes jusqu'à la fin de Vincennes. Après, il a fait un court séjour à Paris 8, Saint-Denis.
Qui avait pris la suite de Vincennes. Edgar Faure qui a mis son place. Enfin, bref.
Et puis, il a intégré Paris 7.
Jussieu.
Jussieu, ouais. Qui s'appelle Diderot maintenant, mais qui était Jussieu. Et en fait, c'est absolument marrant ça, parce que moi, j'étais étudiant à Jussieu, j'ai fait une maîtrise d'histoire à Jussieu. Et en fait, c'est incroyable. Un jour, on discute, mais tu vois, longtemps après, c'était pas au tout début, quoi. Tu vois, à un moment, je dis, ah oui, mais à Jussieu, moi, j'avais Guy Docouin comme prof, qui est aussi un peu. Dans cette mouvance un peu ultra-gauche, conseilliste et tout ça, quoi. Et en fait, il me dit, ah ben moi, de quoi c'est celui qui m'a fait venir à Jussieu, parce qu'il y avait trop d'Althusseriens. Et il voulait des marxiens critiques. Quoi, ouais. Comme ça. Et donc, et puis je lui dis, et j'ai fait une maîtrise à Jussieu avec Ansart. Et le mec, le Américo, me dit, oui, je l'ai lu. Je lui dis, comment t'as lu ma maîtrise, parce que je te l'ai jamais donnée. Elle me dit, bah tu sais, les maîtrises, elles sont archivées, et j'ai lu ta maîtrise. C'était pas mal, d'ailleurs. et voilà, et donc après, il a terminé sa carrière à Jussieu. Alors, il y a aussi un chapitre très intéressant, c'est que, donc à un moment, il est envoyé comme enseignant en Afrique. Et il y a un chapitre qui, moi, m'a appris beaucoup de choses sur le Rwanda, la guerre entre les Tutsis et les Tutsis et les Hutus, quoi. Donc, voilà. Et donc, je pense que ça, c'est... Et le dernier chapitre est plutôt, que je crois que j'ai appelé, si je me gourre pas...
Je me rappelle. Je l'ai lu pourtant.
Fugue théorique.
Ouais,
que le problème d'Américo, c'est qu'en fait, il y a toujours de la théorie.
Ah oui.
quand il parle de pratique.
Oui, oui.
C'est la théorie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Ah ouais, machin l'a dit dans ce bouquin. Et donc la question qui suit, c'est mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et le mec te raconte, et putain, ça peut prendre des pages. Donc ça cassait un peu le rythme des trucs. Mmh. Donc on a fait un petit chapitre qui n'est pas énorme non plus, mais qui est là plus sur des questions, théoriques pures, quoi, et trucs comme ça.
Non, mais c'est très bien l'idée de le mettre à la fin.
Ouais.
C'est pas pour dire que c'est pas important, mais tu bon, voilà. Ouais. T'as déjà vu, t'as accompagné Américo, et puis bon, bah, tu l'accompagnes aussi par rapport à tout ce qu'il a pu lire. Ouais. Là, tu le mets. Parce que, c'est, à mon avis, t'aurais eu du mal pour l'insérer à l'intérieur.
Bah oui, oui.
Tu vois. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais.
Donc, il y a eu tout un travail, oui, qui était de... En fait, mon truc, c'est que moi, j'avais toujours l'idée d'Américo, qui était pour moi un homme de l'oralité.
Oui, complètement. Ça,
Et en fait, il y a des trucs qui passent dans l'oralité parce que tu peux intervenir, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, quand il fait une digression théorique, tu dis, bon, d'accord, mais la question n'était pas celle-là. On peut en parler à un autre moment et tout ça. Mais là, si tu veux, dans un entretien que tu lis, il y a un moment, ça cassait le rythme. Parce que c'est un livre qui est très dynamique, en fait, quoi, dans la, dans l'expression, la pensée, et tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Et donc, bon, bah, c'est... Mais j'ai beaucoup réfléchi avant de trouver cette solution, de discuter avec l'Échappé, et qui ont fait un gros boulot, hein, l'Échappé. Très bon éditeur, l'Échappé. Je vois comment ils travaillent, parce que jusqu'à maintenant, je lisais les livres, quoi. Mais là, c'est le premier que je fais avec l'Échappé. Et je veux dire, c'est des gens très, très sérieux dans le travail.
Bah voilà, tiens, puisque tu l'as en main, tu nous rappelles le titre du livre, ce sera pas moi, ce coup-ci, ce sera toi.
Alors, le livre, c'est « Orange pour un autre rêve », sous-titré « Du tiers-mondisme à la gauche communiste et au-delà
». Eh bien, écoute, on te remercie beaucoup. Je crois qu'on va terminer par une pause musicale. Il n'est pas exclu, je sais bien qu'on t'invite aussi à nouveau pour autre chose.
Oui, on a toujours beaucoup de plaisir à t'avoir dans nos studios. Et pour aujourd'hui, on va se quitter avec une chanson de Michel Buller, interprétée là par Éric Frasiac, L'espoir. Au revoir.
Bien que je sois pas du genre chochotte, à m'effrayer comme un moineau, à peine y vente, à peine y flotte, du genre à faire mon numéro. Inquiet, voyante, extra-lucide, planté devant sa boule de cristal, je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule et tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serai, disons, pas franchement, d'un optimisme forcené, bêtement vu les demain qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai, c'est bizarre, comme scellé tout au fond de moi. L'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qu'illumine nous aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenny, nous en Haïti, comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir. La terre qui saigne un peu partout, mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi quand il est parmi à bien plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir, ou dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord, c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline, c'est toujours relever le front quand les autres courbent l'échine. L'espoir, c'est prendre la parole sans demander la permission, et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins, ceux qui prétendent inéluctables, le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table, c'est montrer son plus haut sinistre qui possède les continents. C'est dire leur fait à leur ministre, qu'il soit larbin ou président. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune de vous rebelle, et que ça n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.